Livre, BD,
film, musique,
jeu, spectacle.
Tu cherches, tu hésites, tu manques d'idées?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes
sur Radio Barthès 107FM.
Eh bien le bonjour au chaudron des découvertes. Alors aujourd'hui, je vais parler des femmes et ça tombe très bien parce que je suis en compagnie de deux femmes. En compagnie de Véro et en compagnie de Raphaël qui vient faire ses premières armes devant toute cette technique auquel moi je ne pige rien du tout. Voilà, alors l'idée de cette émission m'est venue à la suite de la lecture d'un roman, Le courage qu'il faut aux rivières d'Emmanuel Flavier chez Albin Michel en 2017. Ce roman m'a projeté en arrière et il y a 10 ou 15 ans, je visitais une expo dans un lieu fort éloigné d'ici, dans l'abbaye d'Aoulas, dans le Finistère, village à 25 km au sud de Brest. Et j'avais découvert des photos qui m'avaient intriguée, voire impressionnée. L'abbaye d'Aoulas propose très souvent des expositions riches et originales, avec des thèmes assez étonnants. Ces photos, donc, représentaient des personnes habillées de vêtements de travail plutôt masculins, cheveux courts, casquettes, cigarettes à la bouche. Et contrairement aux apparences, il s'agissait de photos de femmes albanaises. Ces femmes qui, dans un monde patriarcal, avaient fait un choix de vie pour le moins déterminant. Mais voici un récit pioché sur Internet qui vous en dira plus. Vous savez ce qu'est une vierge sous serment ? Demande Lali du haut de ses 63 ans à un jeune serveur qui, d'un signe de tête, lui signifie son ignorance. Lali revisse le béret militaire qui lui couvre la tête, glisse les pouces sous ses bretelles noires et continue. « Alors, jeune homme, croyez-vous que je suis un homme ?» Le serveur est alors plus ferme dans sa réponse. « Bien sûr qu'il est un homme avec son pantalon, sa cigarette et son visage autoritaire. »« Raté !» lance Lali théâtrale. « Je suis une burénéchée. » Alors, je ne garantis pas la prononciation, c'est de l'albanais, j'en ai jamais appris une seule ligne. Donc, une jeune fille devenue homme. Lali éclate alors franchement de rire face au regard hébété de son interlocuteur. La scène qui s'est déroulée à l'été 2017 dans un village du nord de l'Albanie n'est pas une plaisanterie faite aux dépens du serveur. Lali, Gianna de son prénom de femme, a bel et bien renoncé à son identité et à sa sexualité de femme en échange du droit de mener sa vie comme elle l'entendait. Cette femme, Lali, est donc ce qu'on appelle une vierge sous serment ou vierge jurée. Et l'exposition dont je parlais concernait effectivement ces femmes qui avaient fait ce choix de vie et cet engagement vis-à-vis des membres de leur famille et des villageois, car il s'agissait d'une sorte de serment public. Selon les historiens, la tradition des vierges sous serment est héritée du Kanum, le code médiéval qui régulait tous les aspects de la société dans le nord de l'Albanie et même au Kosovo, et selon lesquels les femmes étaient, tiens, bizarre, la propriété des hommes. Les vierges sous serment font vœu de chasteté, portent uniquement des vêtements masculins. En contrepartie de ce vœu, elles bénéficient du nombre d'avantages traditionnellement réservés aux hommes, comme le droit de prendre des décisions pour l'ensemble de la famille, de fumer, de boire ou de sortir seule. Devenir vierge jurée était très honorable socialement, confirme l'anthropologue Aferdita Ounzi. Ces femmes bénéficient du respect de tous, un tel choix étant considéré comme le sacrifice suprême. Voici un autre récit. Denis ne regrette pas de s'être conformé à cette coutume ancestrale née dans une société patriarcale où les femmes étaient reléguées à la domesticité sous la domination des hommes. Elle a fait le serment de ne jamais se marier, de n'avoir jamais de relations sexuelles ou d'enfants. En échange, elle a endossé des habits d'homme, synonyme de dur labeur, mais aussi de liberté. Rien ne lui fait peur dans cette région où la vie est rude, particulièrement en hiver lorsque la neige l'isole de tout. Couper le bois, porter des pierres, réparer des toits, s'occuper du bétail, conduire des tracteurs, Duny n'a reculé devant aucun travail de force. « Je suis devenu le pilier familial », résume-t-elle. Duny pense être l'une des dernières dans une Albanie où, heureusement, les droits des femmes ont progressé, mais surtout parmi les élites, car il y a encore des inégalités. Peut-être qu'avec moi, le chapitre sera fermé. Personne ne deviendra plus Bureneche. Aujourd'hui, la vie est différente. Il n'y a pas cette pression. Alors, parlons du roman « Le courage qu'il faut aux rivières » d'Emmanuel Favier. Manuche est l'une de ces vierges jurées dans un village des Balkans où elle vit. Elle est respectée par toute la communauté. Mais l'arrivée d'Adrian, un être au passé énigmatique et au regard fascinant, va brutalement la rappeler à sa féminité. Ce roman souligne la pression des communautés traditionnelles, la difficile place des femmes et les limites de leur choix. La fiction s'invite bien sûr, et en particulier dans la relation qui va s'instaurer entre elle et Adrian. Car effectivement, dans le roman, le choix radical et la posture de cette femme vacillent avec la découverte d'une autre vie et d'autres relations. Comme si l'autrice, quelque part, ne pouvait admettre un tel destin. En fait, si je suis partie de cette coutume, qui bien sûr va finir par disparaître, c'est qu'elle montre à quel point la place des femmes a toujours été complexe et que pour ces femmes albanaises, même si les motivations sont différentes pour chacune, en arriver à un choix aussi radical montre que s'exprimer librement, se sauver du patriarcat, c'est finalement en prendre les habits. Drôle de paradoxe. Et c'est surtout un chemin plutôt étroit vers la liberté. Mais les choses ont évolué en Albanie. Que dire par contre des femmes d'Iran ou d'Afghanistan ? Bien. Heureusement, les femmes n'ont pas toujours été prises dans ce type de choix cornélien. Et finalement, elles sont nombreuses à s'être affranchies du patriarcat et des restrictions dues à leurs conditions de femmes.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières, les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait,
celle qui pleure ou qui est gaie.
C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot,
fille de vague ou de ruisseau.
Et c'est mon cœur ou bien le leur.
Et c'est la sœur ou l'inconnue,
celle qui n'est jamais venue,
celle qui est venue trop tard,
fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
Donc, dans Culotté des femmes qui font que ce qu'elles veulent, Pénélope Bagieu a mis en BD et en exergue des femmes qui ont réussi à aller au bout de leurs désirs ou de leurs projets. Et il s'agit de deux tomes, donc intitulés Culotté, édités en 2016 et en 2017. Ce sont de courtes biographies qui concernent des femmes à travers le monde et selon plusieurs époques. Des femmes qui ont osé, sont passées outre la pression sociétale et les préjugés. Dans son œuvre comme ses prises de position publique, Pénélope Bagieu est très engagée dans le combat féministe. Elle affirme notamment que « si tu demandes avec une petite voix timide qu'on te fasse de la place, ça ne marchera pas ». Je vais vous relater juste un exemple, celui de Nazik al-Abid. Nazik al-Abid est née en 1898 dans une riche famille de marchands de Damas, en Syrie. C'est une activiste. Très tôt, elle vit mal les injustices, veut manger avec les domestiques, veut travailler au champ. Elle part faire des études à Istanbul et rapidement, elle organise une manifestation pour dénoncer les discriminations que subissent les étudiants arabes. Du coup, elle est renvoyée et, de retour à Damas, elle commence à écrire dans la presse locale pour critiquer ce que font les Ottomans. Mais quand même, elle le fait sous pseudo masculin. Elle crée un groupe de lutte pour le droit des femmes en Syrie et la réponse du gouverneur ottoman sera l'exil de la famille entière en Égypte. Puis c'est la Première Guerre mondiale, fin de l'Empire ottoman, retour en Syrie, où elle réclame le droit de vote pour les femmes, fonde une ONG de femmes et une revue féministe, fonde également le Croissant Rouge, sur le modèle de la Croix-Rouge. Après l'emprise ottomane, la Syrie passe sous mandat français. Nazik prend les armes et sera la seule rescapée de la bataille de Maïsaloun. Elle devient même générale de l'armée syrienne. Mais bon, c'est quand même la France qui dirige son pays. Elle subira plusieurs exils. Elle reviendra parfois clandestinement en Syrie, fondera la Société pour l'éveil des femmes de Damas pour instruire les veuves de la Syrie rurale. Elle finit par se marier avec un exilé syrien au Liban. Ce dernier financera les projets politiques de sa femme, notamment la publication d'autrices féministes. Elle meurt à 61 ans. Et comme le dit Pénélope Bagieu, toute sa vie chassée par la porte, elle est revenue par la fenêtre pour combattre l'injustice. Même si je ne suis pas forcément fanatique du graphisme, je dois reconnaître que le dessin rend les récits plus vivants. Et j'ai découvert bon nombre de femmes qui ont eu des vies incroyables, voire rocambolesques, et en tout cas qui n'ont pas hésité à faire ce qu'elles voulaient. En faisant mes recherches, j'ai également retrouvé un hors-série de Cosette de 2020 intitulé « 30 histoires de femmes intrépides », magazine disparu définitivement des kiosques, et je me rends compte qu'elles ont été nombreuses à ne pas se laisser faire, mais quand même plutôt invisibilisées. En tout cas, elles n'ont pas le droit de citer dans les livres d'histoire. Ce qui me conduit à vous parler d'un ouvrage très intéressant, « Les grandes oubliées de l'histoire, pourquoi l'histoire a effacé les femmes » de Titiou Lecoq en 2021 aux éditions de l'Iconoclaste.
Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suivrai, je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez. Faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimée putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte de sous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou qui se bat. C'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui attend sur le port, celle
monuments aux morts.
Celle qui danse et qui en meurt.
Fille bitume ou fille fleur.
Et c'est ma mère ou la vôtre. Une sorcière comme les autres.
Donc, je vous disais Les grandes oubliées de l'histoire de Titiou Lecoq. Voici un livre riche et drôle, car, dit-elle, on a effacé celle qui avait agi, celle qui, dans le passé, avait gouverné, parlé, dirigé, créé. On nous a raconté d'elle que d'elle, ils n'avaient rien à dire puisqu'elles auraient été empêchées. Si les femmes n'apparaissaient pas dans l'histoire, c'est parce qu'elles avaient été trop occupées avec les enfants, le ménage, le ragoût de pommes de terre. C'est faux. Et elle ajoute, il s'agit de vous raconter ce qu'on ne nous dit pas en classe. En effet, elle conclut en disant, aujourd'hui, avec les nouveaux programmes du collège et de lycée, on constate un nouveau recul de la présence des femmes dans l'histoire enseignée. Exemple d'un manuel d'histoire pour le lycée datant de 2019. Les femmes y apparaissent dans 6 pages sur un total de 277. Titiou Lecoq se demande comment peut-on penser le rapport au pouvoir, ce qui est l'objectif avoué du programme de classe de seconde, sans penser les rapports hommes-femmes. Dans ce livre, elle part donc de la préhistoire à nos jours. Le ton est alerte, plein d'humour, mais en fait très digeste. Et elle suggère des références si la lectrice ou le lecteur souhaite approfondir. Voici un petit extrait du chapitre 16, La conquête des droits depuis l'après-guerre. Aux États-Unis, c'est toute une génération qui a eu accès à l'université, a poursuivi des études supérieures, puis s'est mariée et s'est retrouvée mère au foyer. À l'une d'elles, on confie un jour une petite étude à mener. Il s'agit de recontacter ses anciennes copines de fac. Nous sommes au début des années 1960 et elles ont fini leurs études depuis une quinzaine d'années. Et de leur demander de répondre à un questionnaire sur ce qu'elles sont devenues, ce qu'elles font, comment elles voient leur vie. Elle se lance et quand elle reçoit les réponses, elle comprend qu'elle vient de découvrir un phénomène massif dont absolument personne ne parle. Quelque chose de totalement invisible. Un état dépressif généralisé, ce qu'elle nomme l'indéfinissable malaise et qui va l'amener à écrire pendant 5 ans un livre qui va faire l'effet d'une bombe aux États-Unis, La femme mystifiée, en 1963. Betty Friedan y raconte comment les femmes américaines, notamment les mères, souffrent parce qu'elles n'ont pas de vie autonome. Elles n'existent pas en tant qu'individus, mais uniquement en tant que compagne ou mère. Cette privation du droit élémentaire à être les plonge dans des souffrances silencieuses. Il me fallait trouver un nom pour ce qui nous empêchait d'user de nos droits, qui nous faisait nous sentir coupables chaque fois que nous accomplissions quelque chose en tant qu'être humain et non en tant qu'épouse ou mère. En France, cette lutte pour avoir le droit de mener sa propre vie va prendre la forme de l'engagement pour le droit à l'avortement. C'est là aussi le fait de toute une génération qui a cru à l'égalité. Elle a vu s'ouvrir les universités, elle a de l'ambition, mais elle vit l'interdiction de la contraception et de l'avortement comme une source terrible d'injustice. La jeune étudiante qui tombe enceinte, j'ai toujours détesté cette expression comme tomber amoureux, voit sa carrière interrompue et même, la plupart du temps, définitivement. Il faut imaginer ce que c'était. La promesse des types de se retenir et « Oups, désolé !» alors que cela n'avait pas grande importance pour eux, qui pouvaient continuer leurs études et leur carrière. Les femmes cherchaient des faiseuses d'anges, se retrouvaient à avorter dans des conditions dramatiques et souvent traumatisantes. Lisez l'événement « Récit terrible d'Annie Arnaud ». Il n'y a pas que le récit d'Annie Arnaud, il y a également un film formidable qui s'appelle aussi l'événement qu'il faut absolument regarder. Alors, justement, sur cette histoire d'avortement, etc., je continue un peu sur ce chapitre. Elle, donc, Titiou Lecoq, rappelle qu'il y a des gens qui ont été longtemps invisibles et qu'on a oubliés. Pourquoi tout le monde ne connaît pas Simone If, par exemple ? Fille de pasteur, protestante, résistante, cette mère de 5 enfants revendique d'avoir avorté plusieurs fois. Elle est l'une des instigatrices du manifeste des 343. Elle préside le planning familial. Elle témoigne au procès de Bobigny. Elle cofonde le MLAC. Elle disait notamment que l'avortement n'était pas une question de femme en détresse qui ne pouvait pas s'en sortir, mais simplement le droit de choisir ce qu'on voulait. On devait avoir le droit d'avorter sans avoir à se justifier. C'est pour ça qu'elle faisait partie de celles qui auraient préféré que la loi sur l'IVG fût portée par une ministre des droits des femmes, plutôt que par la ministre de la Santé, Simone Veil. En tant que membre du cabinet d'Yvette Roudy, alors ministre des droits des femmes, Simone If se bat ensuite pour obtenir le remboursement de l'IVG par la Sécurité sociale, seul moyen d'assurer une égalité d'accès à l'avortement en dehors des questions de classe sociale. Elle lutte également pour qu'on réserve des places dans les hôpitaux pour les IVG. Et en 1986, elle cofonde le collectif féministe contre le viol. Elle est décédée en 2014 à l'âge de 90 ans après avoir consacré sa vie à changer celle des autres femmes. Voilà, que des femmes incroyables.
S'il vous plaît, soyez comme je vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi, apprenez-moi, n'ayez pas peur, pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi, je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague, de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyés. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui cède ou se défend. C'est Gabriel ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger.
Je vais à nouveau parler BD, là, rapidement, sur une BD que j'ai trouvée magnifique, qui est Ada, de Barbara Baldi, une graphiste italienne. L'histoire se passe en Autriche en 1917. Ada est une jeune femme qui vit seule en pleine forêt avec son père, un être plutôt méchant et maltraitant. Ada trime, obéit à son père, fait toutes sortes de travaux, mais elle peut s'évader grâce au dessin. Autodidacte, elle est très douée et crée de très belles peintures, sensibles. Et tout cela en secret, car son père méprise l'art. Il y a très peu d'écrits, mais chaque case est une merveille, un véritable tableau, en particulier les paysages. Les personnages sont également de portraits superbes. Et Ada va être aidée par un ami qui lui fournit de quoi dessiner. On peut se questionner sur sa soumission à son père, mais en réalité, elle prépare sa sortie. Et donc, elle finira par triompher en quelque sorte. Ce livre, enfin cette BD est vraiment magnifique parce qu'il y a un écho entre ce que fait Ada dans la BD et ce que fait le Barbara Baldi. Tout est superbe et c'est aussi le thème universel de la lutte pour l'indépendance. Voilà, célébration de la force de l'art et de la créativité. Vraiment une très belle BD qu'on trouve d'ailleurs à la médiathèque de Florac. Et pour finir, allez, quelques petits articles dont je vais vous parler. Vous allez encore entendre parler de l'âge de fer. Alors, de l'âge de fer, c'est du Rojava à Marseille, pas de comité sans femmes et une voix derrière les barreaux, condamnation de la chanteuse Nudem Durak à 19 ans de prison pour avoir chanté en kurde en Turquie. Donc ça, c'est l'âge de fer de septembre 2025. Dans la revue Silence de septembre 2025, en Russie, la résistance féministe anti-guerre. Eh oui, quand même. Hein. Et l'humanité du 13 octobre 2025, dans la rue, contre le patriarcat, le racisme et le capitalisme. Voilà, donc des articles qui sont toujours assez intéressants. Et juste une petite incursion aussi du côté de... Alors, Margaret Atwood. Margaret Atwood, autrice canadienne, née en 1939, elle est plus très très jeune, et qui est connue pour son célèbre roman La Servante écarlate, et qui raconte effectivement le cheminement d'une femme dans un régime totalitaire où les femmes sont soit épouses, soit Martha, c'est-à-dire cuisinière ou gouvernante, soit servantes, c'est-à-dire celles qui sont encore fertiles, sont réduites à l'esclavage reproductif dont fait partie l'héroïne. Ce livre a été écrit en 1985, ça a été un succès, mais suite à ce succès, il y a une polémique qui a éclaté. Certains parents l'ont accusé d'un roman dépravé, anti-chrétien, anti-islamique. Bon. Autre ennui pour Margaret Atwood, la première ministre de la province d'Alberta a décidé de retirer des bibliothèques scolaires les ouvrages contenant une description explicite d'un acte sexuel dont le roman de Margaret Atwood fait partie. Et voici sa réponse. Voilà, je lis ce qu'elle a dit. Face à cette censure d'œuvres qui invite à penser librement le monde, l'écrivaine a accusé le gouvernement de prendre les lycéens pour des bébés stupides, tout en publiant sur Twitter un récit moqueur dans lequel... Du coup, on cite Margaret Atwood. Jean et Marie eurent 5 enfants sans jamais avoir de relations sexuelles et vécurent heureux en se croyant bons chrétiens alors qu'ils pratiquaient un capitalisme rapace et égoïste. Voilà, elle ne mâche pas ces mots, la petite dame de 86 ans. Hein. Alors, eh bien, pour finir, et comme le chante Tracy Chapman, il y a trop de douleur, trop de souffrance, c'est le moment de recommencer à zéro. New beginning.
together in a unified whole. But now too many stand alone. It's too much separation. Can resolve to come together in the new beginning. Break the cycle. We can break the chain. We can start all over in the new beginning. We can learn, we can teach, we can share the myths, the dreams, the prayers, the notion we can do better, change our lives and paths, create a new
Non, messieurs, vous n'êtes pas que des foutus machos masculinistes. Un article dans le Nouvel Obs du 25 septembre 2025, intitulé « Les pères sont des mères comme les autres », raconte que, j'en lis un tout petit extrait, hein, « Sous IRM, on a pu constater la mobilisation des zones liées à l'empathie dans leur cortex, mais aussi dans les parties plus anciennes du cerveau en matière d'évolution, à savoir l'hypothalamus et l'amygdale, dont l'activation est multipliée par 4, comme chez les mères. Il s'agit de papas qui bercent leurs petits. C'est pas beau la vie. Allez, à bientôt.
Livre, BD,
film, musique,
jeu, spectacle.
Tu cherches? Tu hésites? Tu manques d'idées?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes.
Sur Radio Barthès 107 FM.